Maintenant, un bon bois de casse.
Maintenant, un bon bois de casse. Maintenant, un bon bois de casse.
Et bonjour à toutes et tous, c'est dans l'antre secrète de Repos Productions que j'ai le bonheur de croiser Antoine Boza. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alors, tu es en escapade en Belgique et donc évidemment j'en profite, mais si on va certainement entendre ta future progéniture, puisqu'on a un futur auteur de jeu qui attend dans les bras de sa maman, donc je suis désolé de te déranger en pleine vacances, ça c'est déjà une chose, mais le monde ludique obligeant, on est quand même obligé de te poser deux, trois questions, sachant qu'on est maintenant... Nous sommes le 18 juillet et l'extension de Seven Wonders Cities vient de sortir. On ne va pas s'étaler énormément là-dessus. On en a déjà énormément parlé puisqu'il y a déjà un peu de temps. J'étais déjà avec toi en train de filmer les prémices. Est-ce qu'on confirme le fait qu'il y aura bien cette extension malgré le fait qu'apparemment ce n'était pas ta volonté au départ ?
Alors, non, ce n'était pas ma volonté au départ. Non, je ne peux pas te le confirmer à ce jour, pour la bonne et simple raison qu'on aimerait beaucoup en faire 7 pour rester dans la thématique du 7, mais que c'est pas gagné, hein, qu'on les a pas. L'idée, c'est de les faire une par une, et voilà. En fait, c'est pas très dur de faire une extension, mais c'est quand même très dur de faire une bonne extension. Donc l'idée, c'est quand même d'arriver à faire des bonnes extensions et pas juste sortir des cartes pour faire des cartes. Donc on les prend vraiment une par une, et voilà. Enfin, une par une, entre guillemets, parce que je travaille sur deux en simultané, mais bon, a priori, voilà. C'est même pas dit qu'une des deux soit validée par Repos pour l'instant. Donc c'est vraiment prendre les choses dans l'ordre. Dans Infinity Cities, ouais. Donc je travaille sur la prochaine. Je suis venu leur montrer un prototype qui tourne déjà. Enfin, ils m'ont pas dit, bon ok c'est parti, il n'y a plus qu'à développer. Il y a encore des réserves sur certains aspects de cette éventuelle troisième extension. Donc voilà, on se presse pas, on se prend le temps de faire les choses.
Ça veut dire que Repos aimerait bien avoir des extensions si elles sont jouables, mais finalement en tant qu'éditeur il n'amène pas des idées, il se dit pas tiens ce serait pas mal si on faisait ça et toi tu digères.
Dans les idées sur lesquelles on travaille, il y a un mécanisme, des projets d'extension qui a été à l'origine. C'est Thomas qui a commencé à y réfléchir dessus. Donc il y a aussi, ils sont aussi venus avec certains éléments. Donc dans les deux sur lesquelles on travaille, en fait, il y en a une que moi j'avais en tête depuis un petit moment et que là je l'aurais présenté. Il y en a une autre, c'est plutôt Thomas qui a eu les idées à force de faire tourner le jeu. Donc on travaille deux avec deux origines différentes. Voilà, mais bon, pour l'instant, tu vois, il y en a aucune des deux où on dit voilà, la mienne n'a pas encore complètement convaincu Repos et l'idée de Repos ne m'a pas convaincu moi, donc pour l'instant voilà, on sait pas encore où on va.
Ok, mais on est déjà en train de digérer Cities évidemment, mais on peut déjà, est-ce qu'on peut avoir dans les grandes lignes les choses qui se préparent?
Alors moi, celle sur laquelle je travaille pour l'instant, elle s'appelle Armada. C'est la jumelle de Cities, dans le sens où en termes d'intégration, ça va être des cartes sur le même principe qui vont se mélanger dans le deck. A priori, on pourra mélanger et Cities et Armada, mais il y aura un petit ajustement de règles pour pas qu'il y ait trop de cartes à la fois. Donc là, l'idée, c'est de mettre en scène dans chaque cité qu'il y a un chantier naval en fait et qu'on puisse mettre en construction des bateaux. Avec un petit mécanisme différent, donc je peux pas vraiment parler parce que je suis pas sûr que ça soit validé, donc je vais pas dire ça va se passer comme ça parce qu'aussi bien ça peut encore changer quoi.
Mais le but d'une armada, c'est justement d'aller.
Il y aura des bateaux et bien sûr s'il y a des bateaux, on pourra peut-être un peu plus embêter les gens qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. On pouvait déjà le faire d'ailleurs dans Cities, mais voilà. Là ça sera pas exactement le même mécanisme, mais pour toujours dans l'idée de permettre de l'interaction un peu plus étendue au-delà des voisins qu'on a à sa table.
Tout à fait. Et toujours, il y a toujours cette logique de. On veut mélanger les extensions ou finalement c'est du standalone à chaque fois?
Pour l'instant, a priori là pour l'instant ça reste compatible. Voilà, sauf que comme celle-là et la jumelle de Cities, pour jouer avec les deux, il y a quand même un petit ajustement de règles, alors qui est pas méchant, mais voilà. On peut pas juste empiler parce que ça pose des soucis après. Enfin, c'est pas en empilant généralement que tu gagnes de l'intérêt, donc il y a quand même un ajustement. Par contre, tu pourras très bien jouer. Armada Leader reste compatible avec toutes les autres vu que c'est un mécanisme qui est hors des âges, là il n'y a pas de souci et a priori ça restera compatible en tout cas sur les trois premières. Après bon, comme je ne sais pas ce qui va arriver après, il y a très peu de chances que les 7 soient jouables ensemble. Je suis plus dans la logique qu'il y avait la colonne Catane de joueurs où tu as beaucoup d'extensions et où dans la règle on te dit vous en prenez par exemple 2 dans les 7 que vous avez et puis du coup ça vous fait une config différente à chaque fois parce que vous avez une nouvelle combinaison d'extensions et c'est un système que j'aime bien quoi. Parce que finalement quand tu as trop de choses, tu perds un peu l'essence de chaque extension, donc je préfère sélectionner. Le fait est que pour l'instant ça reste possible de mélanger et je sais très bien qu'il y a des joueurs qui de toute façon mettront tout parce qu'il y en a qui aiment tout mettre de toute façon. Moi c'est pas forcément mon goût perso, mais il y en a qui aiment ça.
Et sachant que le goût que Repos Prod a pour le jeu coopératif, on peut imaginer un Seven Wonders coopératif ou d'une certaine manière?
Alors pour l'instant, non, il n'y a rien qui en ferait un jeu coop. Non, j'ai pas spécialement d'idée sur comment faire un jeu coop.
Ce serait un fameux challenge, je pense. Hein,
mais... Ouais, ce serait un gros challenge. Je suis pas sûr que ça soit bien réalisable d'ailleurs. Et puis je fais déjà pas mal de jeux coop à côté, donc moi je sais pas si je vais pas toujours faire du coop non plus.
Ok, donc ça c'est effectivement l'extension Cities. L'idée c'est quoi? C'est une extension par an ou...
Ouais, si ça avance à la vitesse qu'on aimerait bien, l'idée c'est d'en sortir une par an jusqu'à ce qu'on soit qu'on ait tout donné. Hein, comme ouais. Je dis, si c'est possible, tu vois, déjà Cities avait facilement 4 mois de retard, mais on a pris les 4 mois de retard pour la finir comme on voulait la faire. Ouais. Voilà. Donc là, il n'y a pas vraiment de contrainte de calendrier. Après, bien sûr, si tu veux faire plusieurs extensions, tu ne peux pas attendre 3 ans entre chaque extension parce que du coup, le produit ça a plus de sens. Quoi, donc il faut quand même essayer d'avoir un rythme correct. Mais bon, voilà, tu vois, on a déjà 4 mois de retard, donc il y a des chances que les 4 mois se reportent sur celle d'après, forcément ouais. Déjà. On va pas, je pense pas qu'on arrive à regagner les 4 points. Mais... Ouais. Donc il n'y a pas trop de contraintes de leur part là-dessus. Quoi.
Par rapport aux autres sorties, on a Ali qui est sorti chez...
Il sort chez Libellude le mois prochain, fin août, un peu avant la rentrée, ouais. Qui est un petit jeu familial que j'ai fait avec un jeune auteur qui s'appelle Corentin Lebras. Qui sort un jeu chez Libellude, là au moment où je te parle, qui s'appelle Le Petit Poussé et la Forêt Mystérieuse, dont tu as peut-être entendu parler.
C'est dans cette logique de... En fait, c'est toute une série de nouvelles boîtes, de nouvelles manières de jouer.
Alors, c'est pas le même format de boîte, là, du coup, mais c'est vraiment des jeux, voilà, c'est vraiment des jeux famille-enfant, quoi, qu'on peut jouer en famille et qui se jouent éventuellement contre enfants. Sur des thèmes, on va dire universels, ou en tout cas largement connus par les familles et les enfants. Donc, Le Petit Poussé, nous, c'est une relecture d'Ali Baba.
Et donc ça c'est un jeu qui était en gestation pendant longtemps ou bien c'est parce qu'on sait que c'est un jeu qui reprend un peu une mécanique de mémoire et puis avec des je crois qu'il y a une mécanique assez dissymétrique sachant que donc le jeu où dit voilà j'ai été prendre dans la grotte tel objet quelle est la réflexion que toi tu as par rapport à ça en se disant comment est-ce que je peux en faire un jeu innovant puisque la logique c'est quand même de faire quelque chose qui titille un peu l'esprit de ceux qui connaîtraient ce genre de mécanique déjà.
Voilà, donc c'est un jeu qui reprend le principe de répétition d'une chaîne verbale. Donc il y a déjà d'autres jeux, notamment La Voix du Manitou, qui était un jeu pour apprendre à lire et à répéter pour les petits. Là, la plus-value d'Ali, c'est qu'on a effectivement un jeu asymétrique, c'est-à-dire que chaque tour, il y a un joueur qui joue Ali Baba, et les autres joueurs incarnent les voleurs. Donc les joueurs, reprennent ce mécanisme de chaîne à répéter, donc ils essayent de répéter les objets avec lesquels Ali tente de sortir de la caverne. Et de l'autre côté, Ali n'a pas du tout le même mécanisme, parce que lui, il a un mécanisme de stop ou encore. Il va essayer de récupérer un maximum d'objets, mais certains objets font du bruit, font de la lumière ou sont encombrants. Donc il faut qu'il sache s'arrêter avant de récupérer trop d'objets qui le fassent griller. Donc le petit plus par rapport au mécanisme, c'est ce truc asymétrique où chacun à son tour, on joue. Et on a un jeu de stop ou encore face à plusieurs joueurs qui jouent un jeu de répétition de chaîne vocale.
C'est-à-dire que plus loin va Ali, plus il met à mal l'équipe de voleurs, parce qu'ils vont devoir répéter plus de trucs.
Voilà. Sauf que s'il se fait coincer au stop ou encore, finalement il sort avec rien dans les objets. Et les voleurs qui récupèrent les objets qu'il a tombés. Donc voilà, c'est le petit ajout qu'on a trouvé sur le principe de chaîne verbale.
C'est quoi, c'est une demande ou c'était une espèce de commande ou c'est toi qui as eu l'idée et que tu l'as proposé?
Alors c'est une idée, ça s'est fait un peu bizarrement. En fait, quand j'ai déménagé sur Valence, j'ai redéménagé au moment où je commençais à travailler sur un autre jeu sur les mille et une nuits qui s'appelle Sinbad. Et du coup, j'ai dit j'arrête un peu de faire des jeux sur le Japon. Bon, c'est pas tout à fait vrai parce que j'en ai fait d'autres depuis, mais et je m'étais dit
c'est plus fort que toi.
Ouais, c'est un peu plus fort que moi. Je retravaille sur un autre thème que j'aime beaucoup, c'est les mille et une nuits. Donc ouais. j'avais donc ce projet de jeu Sinbad sur Sinbad le marin et je voulais réexploiter deux autres personnages des mille et une nuits, c'était Scheherazade et Ali Baba en fait. Et en arrivant sur Valence, je suis tombé complètement par hasard sur Corentin en fait qui habitait Valence et qui avait un site où il commençait à faire ses propres jeux, il avait une idée de jeu sur Ali Baba en fait. Et il se trouve qu'on avait la même vision de format, à savoir petit jeu familial avec quelques cartes. Donc j'ai contacté, j'ai dit bah en fait je travaille aussi sur un truc sur Ali Baba, faudrait peut-être qu'on se voit, qu'on en parle. Et puis finalement on a discuté, en fait on a fusionné les deux projets en gardant un peu des idées dans chaque projet. C'est devenu ce jeu-là, donc une espèce d'origine un peu rigolote où c'est deux projets différents qui ont fusionné. Et c'est le moment où on s'est rencontré avec Corentin, voilà. Et depuis on bosse un peu ensemble et surtout on playteste beaucoup ensemble puisqu'on habite au même endroit en fait.
T'avais déjà l'habitude de travailler en couple, on va dire, avec du Catala et du Mot Blanc et encore du Fedouti sur Pony Express par exemple. Ça fait quoi de rencontrer, de se relancer dans un nouveau couple avec un auteur qui se lance en fait, parce que toi tu as pris de la bouteille, hein, on peut pas le nier. Est-ce que tu t'es vu en lui quelques années plus tôt en disant il y a les mêmes réactions?
Ouais, un petit peu, parce que c'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup le jeu coopératif, donc forcément, on s'est tout de suite bien retrouvé en termes de goût ludique personnel, tu vois, même au-delà de ce qu'on aime concevoir sur les jeux qu'on aime jouer, donc c'est vrai que courant est passé très vite, quoi. Après, voilà, c'est toujours très différent. Moi, j'aime bien travailler à chaque fois avec une nouvelle personne, parce que c'est toujours différent, quoi. La somme des deux, ça fait toujours quelque chose que t'as pas derrière. C'est mon fils qu'on entend derrière, et la raison pour laquelle moins de jeux vont sortir avec mon nom bientôt. Voilà. Donc c'est pas Corentin qu'on entend, c'est mon fils.
Il est pas si jeune.
Un Corentin ne pleure pas, pas trop. Enfin, sauf quand il perd, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails ici.
Ok, donc ça c'est effectivement quelque chose d'intéressant. Et on retrouve aussi cette logique de stop ou encore dans le petit poussé de Corentin qui sort chez Libellude.
Alors c'est beau, ça je saurais pas te dire, parce que moi j'ai joué au proto il y a très longtemps.
Pour l'avoir vu un peu en démo.
Du coopératif aussi, voilà. Parce qu'il c'est aussi un fan de jeux.
Si on retourne des tuiles et on continue. Ok, donc là, alors la grosse sortie de Essen, puisqu'on en a déjà parlé, ça a buzzé pas mal avec Funforge, on parle déjà du plus beau jeu du salon de Essen, c'est Tokaido. Alors, pour la petite histoire, Tokaido a été présenté au Centre National du Jeu pour le concours international de créateurs, et bon, tu as gagné le prix. Maintenant, on est en phase édition. Juste revenir sur la thématique du jeu, qu'est-ce qui t'a fait plaisir? Une petite anecdote par rapport à ça, le jury a présenté le jeu au CNJ, lors de la programmation du CNJ, comme étant un jeu hyper relaxant. C'est-à-dire que tous les joueurs avaient ressenti ce fil de l'eau comme ça. C'est un jeu compétitif, mais on a besoin, on ressent un repos et quelque chose qui est bien installé. Ça t'est venu comme ça directement dans Tokaido, ou bien est-ce que c'est une conséquence, un corollaire, c'était pas voulu?
Alors c'était vraiment la volonté initiale, c'est de faire un jeu zen, quoi, vraiment de mettre en scène l'expérience de voyage au sens reposant. Ça a mis du temps au début, justement. J'avais une première version de proto qui a tourné pendant plus d'un an, qui était beaucoup trop froide, avec des mécanismes entre guillemets un peu trop allemands qui me plaisaient pas du tout, et je voulais vraiment faire quelque chose. Voilà, effectivement, ça reste un jeu compétitif, mais un peu comme dans Takenoko. Finalement, ça la compétition m'intéresse pas vraiment dans le jeu. C'est pour ça que voilà, je fais soit des coops, soit des jeux compétitifs où finalement j'essaye que la compétition reste en retrait, soit pas l'expérience de jeu principale, quoi. Donc là, c'était vraiment la volonté, et j'étais content quand le jeu a été primé à Boulogne, parce que l'argument du jury au moment de la reprise, c'était qu'ils ont vraiment ressenti ce que j'avais essayé de mettre. Donc, ouais, effectivement, c'est un jeu qui, finalement, en termes de mécanisme, n'est pas spécialement novateur, parce qu'il n'invente rien. Mais l'expérience de jeu, a priori, est quelque chose qui va faire que le jeu se démarque. Plus le graphisme, mais ça j'y suis pour rien. Donc, de toute façon, cela dit, il fallait quand même un graphisme qui supportait l'expérience de jeu voulu.
Par rapport à ce graphisme, tu as eu beaucoup de propositions d'éditeurs suite au fait d'avoir été primé, ou Funforge s'était imposé directement?
Non, c'est allé assez vite. En fait, je lui avais parlé du jeu au moment de. Sur la fin du CNJ, en fait. Et j'étais allé le voir volontairement parce que j'avais déjà bossé avec lui sur Pony Express. Et c'est vrai qu'en termes de direction artistique, Philippe Noura, le gérant, est un. Et voilà, il a de la bouteille, quoi. Donc c'est vrai que. Et comme pour ce jeu-là, ce que je voulais dans le jeu, c'est vraiment au-delà des mécanismes et du scoring et tout ce que tu veux, c'était vraiment l'expérience. Il fallait vraiment que graphiquement ça soit porté par des illustrations magnifiques, et du coup c'est vrai que c'est moi qui suis allé vers lui. Alors il fallait que le jeu lui plaise, et heureusement le jeu lui a plu pour la même raison, pour l'histoire. Oui, c'est un jeu compétitif, mais finalement ce qu'en ressort à la fin chez les gens, c'est pas du tout l'aspect compétitif du jeu. Donc c'est allé assez vite, on s'est mis d'accord très vite, il a joué au jeu, il a pris le temps de le faire tester autour de lui, et voilà. Et il a fait bosser du coup Nayad dessus. Et je t'avoue qu'au début, j'étais un peu réservé quand il m'a dit que c'était Nayad qui allait faire les dessins, parce que j'avais pas spécialement ça en tête. Ouais. Et en fait, il a fait un style complètement différent des autres projets qu'il a fait. Et puis,
on l'a vu sur Isla Dorada, effectivement.
Ouais, il a fait des trucs beaucoup plus pulp et tout. Et ouais. Finalement, là, ce qu'il a fait. En fait, c'est un fan de Japon aussi. Il se trouve que c'est un fan de Japon. Donc, il a fait un énorme boulot de documentation. Ouais. Il lui a pris vraiment énormément de temps. Et ouais, le résultat est juste magnifique, ouais, je trouve.
En plus, Tokaido est évidemment un jeu familial, mais il y a quelque chose de culturel dedans, et qu'on repart vraiment avec une vision de ce que c'est un voyage au Japon, finalement, parce qu'on va croiser pas mal de gens.
Ouais, il y a cette idée de. Il y a déjà quelque chose qui a laissé Funforge, et qu'il y a quand même une page à la fin de Page Reg où je parle un peu de la culture japonaise que j'aime beaucoup. Donc j'explique notamment le Tokaido d'un point de vue historique. Alors ça, je rentre pas dans les détails parce que j'ai pas beaucoup de place, mais l'idée c'est de vraiment présenter, c'est vraiment de dresser un portrait de la culture japonaise que j'adore, et vraiment de transmettre, au-delà du jeu, de transmettre un petit bout de culture et de donner envie aux gens de s'intéresser au Japon si c'est pas le cas, quoi. Ouais.
Donc ça, Tokaido, c'est pour SN 2012, ça c'est confirmé.
C'est confirmé, normalement, là, ça devait partir en prod cette semaine, on a tout. J'ai fini de tout relire avant de venir chez Repo, tu vois, j'ai fait les choses dans l'ordre.
Joli. Et alors, dans la foulée, même si on n'est pas encore sûr de la date de publication, il y a déjà 2 ans, je vous ai vu tester un prototype où je me suis dit, ça, s'il y a un éditeur qui doit faire ça, effectivement, c'est Repo et effectivement, c'est eux. Ça s'appelle Rampage. Et c'est lié apparemment à ce fameux jeu vidéo où on avait un Godzilla et King Kong qui pétaient des buildings ou quelque chose comme ça.
Ouais, alors le jeu vidéo est connu, mais c'est vraiment le courant des films japonais, les films de monstres japonais, quoi. Et ça, je peux te dire, alors ça remonte à très longtemps. Hein. C'est après avoir vu Cloverfield, un film de monstres, mais pas japonais pour le coup, c'était un film américain. Film que j'ai pas spécialement aimé, mais à la fin du film, je me suis dit, faire quand même un jeu de monstres, ça serait vraiment bien. Et puis il y avait Ludovic Moblin sous Skype, j'ai fait, ce serait vraiment bien qu'on fasse un jeu avec des gros monstres. Il m'a fait, ah ouais, c'est vraiment une bonne idée, et c'est parti comme ça. Et voilà. Une fois de plus, ce qu'on voulait faire, c'était, en termes d'expérience de jeu, au-delà des mécanismes, c'était d'essayer de modéliser le fait qu'on joue vraiment les monstres. Donc avoir un jeu d'action physique où quand on souffle ou quand on crache, c'est vraiment le joueur qui souffle. À un moment, on avait même un système où on pouvait, avec des touillettes de café fixées derrière le pion, où on pouvait fouetter les meeples avec le ressort de la touillette de café. Bon, là, en prod, c'est pas, l'idée a été recalée rapidement, mais l'idée, c'était vraiment de transmettre le fait qu'on joue les monstres, donc on casse vraiment.
Et quand on casse vraiment, ça veut dire que sur le plateau, il y a des immeubles.
Le plateau est en 3D. Alors, il n'était pas du tout au début. Dans les premières versions, on avait tout axé sur le monstre et c'était quand même à plat. Et on avait pas mal bossé le proto avec Ludo. Et bon, ça fonctionnait, mais bon, ça nous avait pas plus excité que ça. Et un jour, il m'a envoyé une photo où il avait justement empilé, il avait formé un immeuble avec des meeples. Et en voyant la photo, je fais, bah voilà, c'est bon, on a trouvé ce qui manquait. Évidemment, c'est juste ça qu'il fallait faire tout de suite. Il faut faire le plateau en 3D avec les meeples. Il faut qu'on puisse vraiment tout casser, quoi.
On se retrouve avec des meeples sur lesquels on fait un château de cartes, en fait, avec des meeples dans les interstices.
Ouais, un millefeuille de meeples et de tuiles en carton. Donc ça te forme des immeubles de différents étages. Et du coup, tes monstres viennent vraiment casser les immeubles. Donc tu fais tomber les meeples dans la rue, tu récupères les morceaux. Et c'est vraiment un jeu physique, quoi.
Mais le but du jeu, c'est quoi finalement? On joue à un monstre et.
Le but du jeu, c'est de faire un maximum de dégâts en arrivant en ville. Donc,
de dégâts ou de victimes?
Alors, de dégâts et de victimes. Alors, c'est des meeples, hein, c'est des victimes. Oui. On a quand même pas fait un truc trop dramatique avec du sang partout.
Dans la vague zombie de 2012, on peut.
Ouais, on le savait pas à l'époque. À l'époque, on a bossé, il n'y avait pas encore la vague zombie de 2012 en plus. Donc, on était dans un truc un peu plus gentil, quoi. Donc, causer un maximum de dégâts, c'est-à-dire que c'est détruire des bâtiments et effectivement manger des meeples. Sachant que tu as plusieurs familles de meeples et qu'un bon monstre doit manger équilibré. Donc, en fait, tu scores si tu manges bien des meeples de couleurs différentes. Si tu manges que les super-héros en rouge, c'est pas un bon régime alimentaire du tout. Tu scores pas beaucoup. Donc l'important, c'est que les monstres doivent manger équilibré. Voilà, c'est le leitmotiv du jeu.
Et on est sur un jeu à combien de joueurs?
Alors ça se joue de 2 à 4, sachant qu'on a fait une règle pour jouer éventuellement tout seul, avec un petit scénario, voilà, un petit scénario si tu veux jouer tout seul. Et tu peux jouer jusqu'à 8 en mélangeant 2 boîtes, en faisant un grand plateau et en jouant par équipe de 2 si tu veux faire un grand plateau avec encore plus de trucs à démolir, quoi.
Okay. Et donc... Oui, j'essaie d'imaginer la personne qui joue tout seul dans son salon et quelqu'un qui n'est pas au courant qu'il voit par la fenêtre. Je pense que ça va être un peu rigolo.
Ouais, et puis en plus, vu que c'est quand même un jeu orienté plutôt kids, on sait qu'il y a des kids, je pense, qui joueront tout seul à se raconter leur histoire avec leur monstre. Et donc, on a quand même fait une variante pour jouer tout seul, même si l'idée, c'est quand même, parce que bien sûr, les monstres, on peut se taper sur la tête, quoi. Donc, on a des dents.
Vous pouvez vous attaquer entre monstres.
Ouais, bien sûr, on peut se taper dessus. Donc, tu as le droit de projeter ton adversaire dans un building pour le faire tomber. Et si tu fais tomber ton adversaire, tu lui pètes des dents. Et forcément, si t'as moins de dents, tu manges moins de meeples. Donc à la fin de la partie, si t'as plus beaucoup de dents, tu manges plus beaucoup de meeples. Donc c'est vrai.
Meeple mou. Ludovic Maublanc, Antoine Boza, c'est un couple qui a déjà très bien fonctionné sur Naulbugs. Naulbugs vous a aidé à créer ce genre de choses-là ou rien à voir?
C'est quand même très différent. Hein,
En termes de création de jeux complètement débiles.
Ouais, on s'est bien retrouvé. Ouais, c'est un créneau sur lequel on se retrouve bien. Enfin, Ludo n'a plus de preuves à faire dans ce domaine-là. Moi, c'est un peu moins vrai.
Ludo est plus débile qu'Antoine.
Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit qu'il n'avait plus rien à prouver, ce qui est très différent. Ouais, on s'est bien retrouvé sur ces trucs-là. Donc, c'était très sympa de rebosser ensemble. En fait, on a même bossé sur Rampage avant Naulbugs, en fait. Comme Naulbugs, c'était une commande et qu'on nous a demandé de le faire pas trop attendre. En fait, on a fini Naulbugs et on a repris Rampage après. C'est pour ça que Rampage, en fait, c'est un très très vieux projet. Ouais. King of Tokyo n'était pas sorti à l'époque. J'ai dit à Richard Garfield, dis donc, tu nous as piqué un thème, là, c'est pas cool. Ouais. Mais c'est un projet qu'on a commencé il y a très très longtemps, avant Naulbugs, en fait.
Ok, mais donc, effectivement, l'impatience gagne, mais on n'est pas encore sûr de la publication. Est-ce qu'on peut parler de Simbad? Sachant que oui. Et donc, le dernier dans la, dans la ligne du temps à moyen terme, on va dire. On parle de Simbad, qui est aussi un coopératif. Donc, on retrouve Antoine Bozat là-dessus. Rapidement, c'est quoi ?
Donc ça, c'est pour 2013, hein, c'est parce que c'est pas du tout terminé. Donc là, c'est un pur coopératif. Hein, on joue tous ensemble contre le jeu, qui reprend le thème de Sinbad le marin. Donc en fait, on joue Sinbad et son équipage. Donc il y a un joueur qui interprète Sinbad et les autres joueurs, ses compagnons de voyage. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire un jeu coopératif, mais d'aventure mille et une nuits. Donc quelque chose d'un peu plus vraiment voyage, action. À nouveau, le thème du voyage, d'ailleurs, un petit peu, qui revient. Sauf que là, c'est vraiment un jeu coopératif. Donc c'est un jeu un peu plus ambitieux, parce qu'il y a quand même il y a pas mal de matériel. Ouais. Il y a beaucoup de cartes.
Plus que dans Rampage,
mais le problème dans Rampage, c'est qu'il y a du matériel atypique qui n'est pas facile à produire. Là, dans Sinbad, c'est du matériel typique, mais par contre, en termes de volume, il y a énormément de boulot d'illustration, parce que du coup, une quête, tu joues des scénarios, en fait, chaque scénario, c'est un ensemble de cartes, donc tu as énormément de cartes toutes différentes, donc il y a un très très gros boulot d'illustration qui va être à faire dessus, donc c'est pas pour les mêmes raisons que Rampage, du coup. C'est pas technique, c'est vraiment en termes de volume, là. Donc voilà, c'est un jeu à scénario. Donc au début, tu dis, ben voilà, par exemple, on va aller secourir la fille unique du sultan qui s'est fait enlever par le méchant de l'île d'à côté, et tu pars en bateau pour aller chercher, par exemple, la fille du sultan. Donc tu alternes des phases de jeu maritime et terrestre, en fait, avec un gameplay qui est un gameplay de prise de risque. Chaque joueur, en fait, est représenté par un tout petit deck de cartes de petit format, de 25 cartes, qui représentent tes compétences. Par exemple, le guerrier, il aura plus de cartes, baston, en fait, et ainsi de suite. Tu dois réussir un enchaînement d'épreuves, et sur chaque épreuve, tu vas définir qui dans l'équipage va se charger de l'épreuve. Donc, si c'est un monstre, tu vas plutôt appeler le guerrier, forcément, sachant qu'il y a des contraintes qui s'en mêlent et qui font que tu ne peux pas toujours envoyer qui tu voudrais. Quoi. Une fois que tu as formé un groupe pour essayer de réussir une quête, chaque joueur, dans son petit deck, choisit combien de cartes on va dépiler du deck face visible pour tenter de réussir l'épreuve. Donc c'est une espèce de mécanisme de prise de risque. Donc on va dire, c'est quand même pas facile, qu'est-ce que t'en penses ? On est que deux, alors on est deux, il faut quand même qu'on y mette quatre cartes. Voilà. Sachant que la contrainte, c'est que si on joue ensemble, si j'en mets quatre, tu dois en mettre quatre. On travaille au même niveau, je peux pas en mettre une et te laisser faire tout le boulot. Donc une fois qu'on se met d'accord, on dépile ces petites cartes et on regarde si on réussit ou si on rate l'épreuve. Voilà. Et la petite particularité, c'est que ton deck de cartes, ça représente à la fois ton énergie. C'est-à-dire que pourquoi tu vas pas mettre le maximum de cartes pour être sûr de réussir la première épreuve, c'est que ton deck doit te faire le scénario entier. Donc tu dois gérer ton deck de cartes. De temps en temps, tu peux récupérer des cartes dans des repos, mais grosso modo, il faut que tu gères ton petit deck sur l'ensemble de la partie. Quoi.
Ouais, une partie, c'est un scénario.
Voilà, un scénario, et t'as 25 cartes à dépenser sur tout le scénario. Donc si tu mets 5 cartes dès le début, t'as déjà fait un cinquième de ta possibilité sur toute la partie. Donc ça va pas passer.
Ouais. Et ce deck-là, comme tu dis, on le mélange, on essaie de le préparer au mieux par rapport à cette mission-là ?
Alors c'est juste que chaque perso a un deck asymétrique, en fait. C'est un petit deck face cachée, en fait. Ouais. Voilà. Celui-là, il est fixe, tu dois juste le gérer. Mais par exemple, ton bateau, avant de partir en expédition, tu vas pouvoir essayer de préparer ton expédition. Donc améliorer ton bateau pour qu'il soit plus rapide, plus résistant, parce que forcément, de temps en temps, tu vas tomber sur... peut te faire attaquer par un kraken, des choses agréables comme ça. Donc tu as une phase de préparation où tu peux essayer de trouver des informations sur les îles pour que les épreuves soient plus faciles à réussir à certains endroits, ainsi de suite. Tu peux recruter des matelots qui vont t'aider quand tu rates une quête, ils vont venir complémenter, ça se dit ? Compléter, hein, c'est mieux, je suis fatigué. Compléter une réussite que tu n'as pas réussi à faire en sortant des cartes. Donc tu as une phase de gestion, un peu de gestion. Ouais, voilà.
Ton deck, il est fixe et tu ne sais pas ce qu'il y a dedans ou...
Alors tu sais ce qu'il y a dedans au total, mais oui, tu ne sais pas ce qui va sortir. Voilà. Par contre, sur ta petite fiche de perso, tu as l'éclaté, tu sais que le guerrier, sur 25 cartes, il a 10 cartes de baston, par exemple. Ouais. Par contre, ça ne veut pas dire quand il rend trois cartes, les trois cartes de baston vont sortir. Donc c'est là où tu as un petit mécanisme de prise de risque.
D'où vient l'idée, pas spécialement du thème, mais de faire ces mécaniques-là, et qu'est-ce qui t'a influencé pour trouver ces mécaniques de prise de risque avec un peu de deck building, même si pas du deck building, mais on se dit, voilà, j'ai ma vie dans un paquet de cartes.
Donc le thème était là depuis très longtemps. J'ai eu le déclic quand j'ai terminé God of War 3 sur PlayStation 3. Hein, ça paraît surprenant, en fait. Dans God of War 3, tu as des QTE. Alors, je ne sais pas si tu vois ce que c'est que les QTE. C'est des petites séquences animées où tu dois appuyer sur les bons boutons au bon moment pour réussir une cinématique, en fait. Tu vois, par exemple, c'est un jeu bourrin, donc il faut que tu crèves les deux yeux du cyclope avant de lui mettre un coup d'épée. Donc il va falloir faire triangle, triangle et croix, tu vois. Et je me suis dit, ça serait super chouette d'avoir un jeu où effectivement on a une épreuve et il faudrait sortir pile poil combat, action. Et du coup, j'ai dit, hop, je suis revenu sur mon vieux thème de Sinbad que je voulais exploiter depuis longtemps. Et au début, d'ailleurs, tu devais le faire en temps réel, c'est-à-dire qu'on devait se mettre d'accord et mettre au hasard les cartes pour réussir l'épreuve. Donc ça a été modifié, mais le mécanisme est vraiment devenu d'un truc complètement qui n'était pas prévu, quoi, qui était un petit bout de gameplay dans un jeu vidéo complètement bourrin, d'ailleurs.
Ça, c'est quelque chose qui s'insère de plus en plus, le fait que des mécaniques de jeux vidéo alimentent du jeu de société, et inversement, on sent ces deux mondes se rapprocher de plus en plus. Tu n'as jamais eu l'opportunité ou des discussions à propos de travailler aussi dans le jeu vidéo ?
Si, d'ailleurs, je lance un appel. Hein, s'il y a des... Non, j'aimerais beaucoup bosser dans le jeu vidéo. Moi, je voulais bosser dans le jeu vidéo, j'ai fait du jeu de société parce que je n'avais pas trouvé de taf à l'époque. Mais ouais, moi, j'aimerais beaucoup refaire du jeu vidéo. Et effectivement, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Du coup, ça devient naturellement une source d'inspiration. Voilà, dans Sinbad, c'est un très bon exemple. C'était vraiment en jouant, pas du tout pour le boulot, en jouant à un jeu qui a déclenché le mécanisme, qui est devenu le mécanisme central de Sinbad, en fait.
Ouais. Et le jeu de société par rapport au jeu vidéo, c'est une contrainte, c'est encore... Est-ce que, enfin, les puristes du jeu de société pourraient dire, oh, c'est quand même beaucoup plus compliqué, beaucoup plus joli comme geste de faire un jeu de société. Comment tu te positionnes par rapport à ça ?
Ce que je trouve le plus intéressant, et là je reviens sur Rampage, c'est que maintenant j'essaye de travailler sur des jeux qui prennent leur sens en jeu de société. Du coup, des jeux qui ne seront pas forcément adaptables en jeu vidéo. Tu vois. Ce qui me paraît intéressant avec Rampage, alors oui, on va dire, oui, c'est un jeu un peu barré, d'accord. L'idée, c'est que c'est un jeu que tu peux pas porter informatiquement, parce que voilà, là tu peux en faire quelque
chose. Il faut le vivre.
Parce que voilà, il faut le vivre, il faut être debout sur la table, il faut souffler, il faut faire des pichenettes et tout. Donc j'essaye de trouver maintenant de bosser sur des jeux où finalement on puisse pas me dire, mais en fait pourquoi tu l'as pas fait sur iPad directement, tu vois. Et là, si j'arrive pas à répondre, je suis un peu emmerdé, parce que j'ai quand même bien envie de dire que bah non, si toi c'est évident, ça pouvait être qu'un jeu de société. Ça n'est pas le cas à tous les coups, tu vois, sur Tokaido, ça pourrait très bien être un jeu informatisé, il n'y aurait pas de difficulté, mais le fait est que l'expérience de voyage, si tu ne la revis pas ensemble à la table, tu ne la ressens pas pareil aussi. Donc, quand ce n'est pas les mécanismes, j'essaie que l'expérience de jeu et le coopératif, hein, voilà, si tu ne joues pas à 6 à Sinbad avec les mecs qui gueulent au moment où ils ont sorti pile poil le bon symbole au bon moment, bon, ça n'a pas d'intérêt non plus. Donc j'essaie vraiment de dire, ouais, non, ça ne pourrait pas être un jeu informatique, parce que regarde, on perdrait ça, et si tu regardes bien, ça, c'est l'essence du jeu, quoi. Ou en tout cas, c'est ce que j'ai jugé important quand j'ai bossé sur ce design-là.
Bon, ben, il n'y a plus qu'à voir et tester tout ça. Merci Antoine, bonne fin de vacances, je ne t'ennuie plus pour ces derniers jours en Belgique.
Oui, je vais profiter un peu du beau temps.
Oui, oui, on en a eu pendant l'interview, c'est peut-être le seul moment où il y en a.
C'est un peu ça, ouais.
Donc, merci beaucoup, à bientôt.
Salut.
Vous avez aimé ce podcast, alors appuyez sur la touche « Trop cool ». Vous n'avez pas aimé ce podcast, alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.